France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Cossy et Foué. À 19h40, Affaires critiques. Lucille Comeau nous parlera du nouvel album de Hamza. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Henri Donadieu, fondateur du bar mythique de Mexico El Nueve, nous racontera l'histoire de ce lieu devenu un symbole de la contre-culture artistique. 19h50, Affaires à suivre en compagnie de Charlotte Fauve, résidente à la Villa Albertine. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon et Timothée Hubert à la prise de son. Bonsoir Cossy et Foué.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que sort ce nouveau livre, Une magie ordinaire aux éditions du Seuil, qui me donne l'occasion de vous recevoir ce jour pour revenir sur quelques moments importants de votre parcours, sur vos sources d'influence, sur votre façon de travailler. Quelques éléments biographiques quand même pour dire que vous êtes né au Togo, enfin... Pas vraiment, comme vous l'expliquez dans ce nouveau livre. Je laisse aux lectrices et aux lecteurs le soin de le découvrir. Enfin, officiellement né au Togo. Oui. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en philosophie obtenue à l'université de Lomé. Et puis, à la fin des années 80, vous avez fondé avec des camarades le mouvement étudiant de lutte pour la démocratie. Et puis, en août 90, vous êtes arrêté comme une dizaine de vos camarades. Juste avant votre arrestation, Cossy et Foué, vous aviez reçu le Grand Prix RFI du concours théâtral panafricain pour votre pièce Le Carrefour. Et dans ce nouveau... Alors, il y a écrit roman sur la couverture. Dans ce nouveau livre, Une magie ordinaire, on verra qu'il est un peu à la frontière. Vous revenez sur ces années-là, sur cette arrestation, mais plus globalement sur votre jeunesse, vos parents, pas seulement votre mère, même si on va beaucoup en parler. C'était le bon moment pour écrire ce livre-là ?
Oui, c'est le bon moment, parce que moi, les livres m'adviennent. Donc, je ne décide pas c'est pas une décision que je prends. Donc, c'est forcément le bon moment quand le livre advient. Oui.
Pour reparler de ces jeunes années dont on reparlera tout au long de l'émission en se référant à ce livre, Une magie ordinaire, comment ça s'articulait l'écriture et l'engagement politique pour vous ? Est-ce que c'était lié ?
En ces années-là, c'était lié d'une drôle de façon. Ça n'était pas lié au sens d'une littérature engagée. C'est une chose que je déteste. Je trouve pas du sens à cette affaire-là. Mais c'était lié dans la mesure où le contexte exigeait que l'on dégage l'espace d'expression. Mmh. Il suffisait pas de s'exprimer. Il fallait ouvrir le champ à l'expression, mais matériellement. C'est-à-dire trouver le moyen de publier en l'absence de toute maison d'édition et avec l'omniprésence de la censure. Donc publier, ça a été pour nous, pour moi et certains camarades, de rendre public. Et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à écrire du théâtre.
Parce que c'est l'espace possible, justement.
C'est l'espace possible. Mmh. Et puis, l'écriture théâtrale permettait de la représentation clandestine. Et on pouvait transformer n'importe quel endroit en scène, en espace scénique. Et puis aussi, ça avait l'avantage de ne pas laisser de traces. Je veux dire, du texte publié laisse des traces. Il y a une traçabilité possible, alors que un texte qui est joué, ça laisse une empreinte dans la mémoire de ceux qui ont appris ce texte par cœur pour le jouer, et aussi dans la mémoire de ceux qui ont assisté. On peut présenter les choses comme ça, avec un public trié sur le volet, avec... voilà.
Mais vous aviez commencé à écrire à quel moment, Cossy et Foué ?
Bah, commencer, alors je peux dire que j'ai commencé à partir du moment où j'ai fini. C'est la première chose que j'ai fini, c'était une nouvelle autour de mes 22, 23 ans. Et la pièce de théâtre, c'était, j'avais 25 ans, ouais. Oui, c'est ça. Depuis mon adolescence, j'ai griffonné toutes sortes de choses, j'ai fait des pastiches, enfin, j'ai appris à faire en imitant. Oui.
En imitant qui, au départ?
Alors, Baudelaire.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire. Oui, faut tout de suite commencer avec les grands maîtres. Oui. C'était essentiellement Baudelaire. Ça a été une grande claque, comme on dit, autour de mes 17 ans, oui.
Puis le choix d'écrire, vous l'avez dit, c'était trouver cet espace de liberté. Alors, il y a cette question, que peut la littérature? Une question qui avait été posée en 64 par la revue Clarté des jeunesses communistes, des étudiants communistes français. Il y avait Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Jean-Pierre Faye, Georges Semprin qui avaient répondu. Je vais quand même vous poser la question dans un instant, mais avant cela, très rapidement, on va écouter le point de vue de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma.
Écrire est une façon de s'opposer, c'est de présenter la réalité pour que les gens réfléchissent à cette réalité. C'est peut-être ça. Mais c'est certainement pas l'écriture qui peut faire tomber un dictateur. C'est pas l'écriture qui peut amener à avoir le pouvoir. Mais comme on ne peut rien faire, on se contente de ce qu'on peut.
Commentaire, Kwasi Efoué.
Oui, je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus prétendre. Enfin, quoi, la littérature n'a pas prétention à faire tomber les armes des mains des soldats. Mais il y a quelque chose dans l'acte d'écrire qui est, en tout cas, qui peut. Ce que permet l'écriture, c'est l'insistance. C'est-à-dire que c'est comme l'incantation. Et donc, ce n'est pas la littérature qui va faire tomber le dictateur, nous sommes d'accord, mais ceux qui vont faire tomber le dictateur ont besoin d'être nourris par cette insistance. Parce qu'après tout, faire tomber le dictateur n'est rien d'autre que le désir de beauté. Et le désir de beauté, il faut bien la poésie pour le dire. Rien d'autre que la poésie ne dit mieux le désir de beauté. Et nourrir ce désir-là me semble nécessaire dans le champ politique.
Mais il n'empêche que, vous l'avez dit, vous ne vous en cachez pas, c'est quand même parce que vous avez publié, parce que vous avez eu ce prix pour votre pièce de théâtre que... Vous avez fait partie de ceux qui ont été libérés, graciés, qui ont pu partir à l'étranger.
Oui, il y a une chose aussi qu'il faut dire pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est que la dictature ont plus peur de la littérature que les écrivains. Enfin, oui. Comment dire, la peur de la des dictatures par rapport aux mots est disproportionnée. Je crois que nous autres écrivains ne faisons pas tant que ça confiance aux mots pour démolir une dictature, mais les dictatures sont convaincues que les mots peuvent les démolir et c'est une chance. Il faut les laisser croire ça. Et donc moi j'ai été protégé. Par l'écriture, je dis j'écris pour me sauver la vie parce que l'expérience première a été de cet ordre. J'ai été libéré parce qu'on a fait du bruit autour d'un écrivain qui a été arrêté. S'il n'y avait pas eu ce bruit là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai.
Mais ça peut faire tomber les armes, c'est autre chose. Mais ça, il en faut pour faire des livres. Mais Dieudonné Nyangou Gouna me racontait il n'y a pas si longtemps dans cette émission qu'il allait être exécuté par un soldat qu'il a reconnu comme quelqu'un du théâtre, qu'il avait vu sur scène et que tout d'un coup, il avait une autre valeur humaine à ses yeux-là.
Oui, il est tombé sur un soldat qui aimait le théâtre.
Il y en a. Il ne faut pas tout à fait désespérer. Mais alors, pour revenir sur votre œuvre, Kwasi Efoué, il y a dans dans ces premières années, on va dire, deux grandes thématiques qu'on va retrouver quand même un peu plus tard. L'une qui est liée à l'histoire et au présent de votre pays, le Togo. Et l'autre est plus tournée vers une réflexion sur l'art, notamment sur le théâtre. Comme, je pense à la trilogie qui comprend donc Le Carrefour, La Malaventure et Que la Terre vous soit légère. On a ces trois personnages, chaque fois, hein, les mêmes personnages dans ces trois pièces. Alors qu'eux, ils sont carrément pas en quête d'auteur, ils voudraient se débarrasser de l'auteur. Donc ça, c'est encore un autre jeu avec le théâtre. Mais vous disiez, les textes adviennent. Mais qu'est-ce qui fait que une fois ce sera du théâtre, une fois ce sera un roman?
Ah oui, c'est ça. Ça, c'est un mystère. Oui,
mystère.
Moi-même, je vous pose cette question. Mais dans ce roman, je parle d'une expérience qui me vient de ma mère, qui est que ma mère recevait des chants. C'était son expression. Elle recevait des chants. Et j'ai l'impression que c'est la même chose que je vis quand je reçois l'inspiration avec la forme. Je sais intuitivement que ça va être une pièce de théâtre, ou je sais intuitivement que ça va être un roman. C'est reçu tel quel, avec l'étiquette.
Mais ces personnages de cette trilogie, ils vous sont arrivés tous les trois en même temps,
oui,
par exemple?
Oui, sont arrivés tous les trois en même temps dans les trois pièces. C'est des personnages dans le carrefour, le poète, le flic et la femme. Et le lieu, le carrefour. Et donc du coup, la dimension théâtrale était présente tout de suite. Je les ai vus tous les trois sur un plateau avec ces changements des répliques. Ça apparaît comme une vision, en fait. Par exemple, mon premier roman, La Polka, j'ai eu une vision de la carte postale avec cette jeune fille, et je sais que c'est un noyau. Si je le déroulais, si je faisais éclater le noyau, le texte qui en sortirait serait un roman.
Ah oui, donc c'est pas à un moment donné, donc on est à la fin des années 90, votre décision, Kossieff, de dire là, je vais faire un roman. Non, ça vous arrive comme cela?
Oui, absolument. Ça m'advient. C'est vraiment le terme. Ça m'arrive.
Vous savez que c'est pas un personnage de théâtre, cette femme-là?
Voilà. Je savais que c'est pas un personnage de théâtre. Je savais que cette femme, cette image de femme contenait un roman. Oui.
Ouais, mais on va avoir du mal à s'approcher du mystère, mais il est d'autant plus intéressant. Alors, pour autant, je disais, votre pays, donc, évidemment, continue à nourrir votre écriture. C'est encore une fois le cas avec Une Magie Ordinaire, on va le voir. Mais avant de l'évoquer, on va écouter une autre autrice franco-camerounaise. C'est Léonora Miano, c'était au micro de Marie Richeux sur France Culture en 2018.
J'ai toujours travaillé sur les silences de l'histoire, parce que l'histoire s'écrit dans ce qu'elle véhicule, ce qui est dit, ce qu'on connaît, mais aussi dans ce qu'elle tait. Et moi, j'écris ce qu'elle tait, tout le temps. Et souvent, ce qu'elle tait, ce n'est pas par hasard qu'elle le tait. C'est parce que c'est ce qui est le plus dérangeant, le plus difficile à assumer, quelque chose me pousse vers ces régions-là de l'expérience humaine, parce que bien j'ai l'impression que contrairement à ce qu'on pense, le fait de taire certaines choses, certains événements, en pensant peut-être en éviter la réactivation, au contraire, ça provoque cette réactivation simplement selon des modalités différentes. C'est-à-dire que le malheur qu'on veut fuir revient selon des modalités différentes, précisément parce qu'on a fait silence à son sujet. Et le silence au sujet des événements troubles, des humiliations, des blessures, c'est quelque chose de très très enraciné dans les cultures subsahariennes. Donc j'écris des choses qui, pour la première société qui m'a engendrée, sont taboues, et encore plus sous la plume d'une femme.
Je vous voyais opiner en écoutant Léonora Miano, Kossieff-Houy. Cette question du silence, elle est aussi très présente dans La Magie Ordinaire, sur les silences de votre histoire. Mais il y a aussi cette question, et je reviens vraiment aussi à ce que disait Léonora Miano, c'est du rapport entre les générations, parce qu'il y a bien sûr votre mère, c'est une point de départ du livre, un coup de fil de votre frère qui vous dit que votre mère est à l'hôpital, à Lomé, vous comprenez que c'est grave. Mais il y a aussi vos enfants qui sont présents dans ce livre, qui ont besoin de connaître ce qui fait partie de votre histoire. Je cite une citation que vous faites de votre fils Maxime, qui vous demande si une part de votre histoire est aussi son histoire et pas seulement votre secret.
Oui, parce que, alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé que il ne fallait pas encombrer les enfants avec des choses très dures que j'ai vécues au Togo. Je me disais que, par exemple, la question de la torture, je pensais que c'était pas la peine de d'encombrer les enfants qui ont la chance de naître dans une démocratie et qui sont loin de tout ça. C'est pas la peine de les encombrer avec cette mémoire et que ça m'appartenait de couper. De couper le lien de malédiction, si j'ose dire. Ils sont loin, ils sont dans une autre histoire, et ils sont libérés de ce passé qui n'est qu'à moi. Et puis finalement, non. Et la question de Maxime est claire. Est-ce que c'est ton secret ou est-ce que c'est aussi mon histoire? Et je crois que ça m'a fait prendre conscience, mais je commençais déjà à réfléchir à tout ça, et ça m'a fait prendre conscience que, Alonso Ramiano parlait de silence tout à l'heure.
Moi, écrire sur les silences.
Oui, écrire sur les silences et dire ce qui est tu. Et puis aussi, il y a dire il n'y a pas que le silence qui cache. Il y a aussi ce qu'on dit pour ne pas dire quelque chose d'autre. Et donc, c'était aussi ça. Qu'est-ce que je dis? Du Togo, de ma vie passée au Togo, de mon père, qu'est-ce que je dis, et des engagements politiques de mon père qui était indépendantiste, ouais. Qu'est-ce que je dis de tout ça pour ne pas dire la part difficile, la part sombre. Donc, autant dire tout en même temps, la part belle, le Togo, l'océan Atlantique, les rivières, mon enfance dans les champs, l'école de mon enfance qui, malgré la violence de l'apprentissage, qui a la pédagogie, avait quelques charmes aussi. Enfin, dire tout ça et ne pas m'en servir pour cacher la part dure. Ça a été, là, une décision à prendre.
Oui, vous êtes quand même très pudique sur la part dure qui vous concerne très intimement. Vous évoquez la torture, ici, à ce micro, elle est quasiment absente du livre. Quasiment.
Oui, quasiment. Ouais.
Alors que la beauté, alors que, effectivement, bien sûr, un beau portrait, très beau portrait de votre mère, mais aussi de votre père, de façon très, très simple, mais très belle aussi. Mais je reviens à la question du silence et à la question aussi du mensonge, parce que quand vos enfants aussi vous interrogent sur le Togo, vous dites que le Togo est un pays qui n'est pas un pays, donc bâti sur une forme de mensonge. Et votre mère, c'est une phrase qui revient souvent, vous avez dit, très, très jeune, tu crieras sur le mensonge, tu nommeras mensonge ce qui est mensonge. C'est ce que vous faites.
C'est ce que je fais, ouais, et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai commencé à écrire. Et oui, écrire sur le silence, c'est aussi dire que ceci est silence. C'est aussi nommer le silence, et parfois forcément enquêter pour révéler quelque chose du silence. Parfois on a rien, on sait simplement que quelque chose est tu, mais c'est indiquer que cette chose-là est tu. C'est pareil pour le mensonge. Quand ma mère dit tu écriras sur le mensonge, c'est au sens où Kuruma le disait tout à l'heure dans l'extrait que nous avons écouté, écrire contre le mensonge, mais c'est aussi écrire et nommer le mensonge, dire ceci est un mensonge. Je repense à ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur la littérature et la dictature. Il y a quand même quelque chose qui a que le conteur, par exemple, il finit, alors il y a une formule des conteurs de chez moi, ils finissent le conte en disant comme vous le savez, ceci est un mensonge, bien évidemment. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport à ce que l'idéologue va professer comme vérité, ce que l'idéologue totalitaire va professer comme une vérité indépassable. Le conteur, il se contente de dire... Oh, vous savez bien que ceci est un mensonge. Mmh. C'est un pied de nez qui est fait à la
parole officielle.
À la parole officielle, ouais. Oui.
Mais pour revenir, et là encore plus précisément, à l'écriture, Kossi Efoué, il faut dire que votre langue maternelle n'est pas le français, c'est l'ewe. Et donc, vous avez donc tôt, très tôt, dû traduire à votre mère ce qui se disait à l'école. Hein. Qu'est-ce que tu as appris à l'école, dans la langue de l'école? Et en retour, vous expliquez que votre écriture, elle porte des traces de cette langue maternelle. Alors, c'est pas des mots, des ouais qui seront dans votre texte, c'est pas du tout cela. C'est quoi? C'est une façon de... c'est un rythme, ça passe par quoi selon vous?
Alors, moi je crois que ça passe par... C'est un rythme. Ça passe par... ça passe par des formes de paroles qui existent dans... chez les chansonniers, par exemple. Je me suis demandé comment font les chansonniers pour composer oralement. Ça a toujours été un mystère pour moi. Moi, quand j'écris, je rature, je reviens, je relis, je recommence, je jette. Mmh. Et je suppose qu'un compositeur traditionnel, un poète traditionnel qui compose oralement, fait les mêmes opérations, mais sans aucun support écrit. Moi, ça me fascine. Et je me suis intéressé à un moment donné à des poésies chantées dans ma langue maternelle, et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'hypothèse que j'ai mis pour répondre à cette question de composition orale, c'est que ça s'appuie sur il y a des appuis rythmiques qui doivent aussi fonctionner comme des méthodes mnémotechniques. Mais bon, moi j'ai l'écriture, donc j'ai pas besoin d'avoir recours aux méthodes mnémotechniques. Mais le rôle que joue le rythme dans ces chants qui peuvent être juste de la déclamation, c'est pas forcément des chants. Donc le rôle que joue le rythme dans cette prise de parole incantatoire. Ça, je crois que dans l'écriture, il y a quelque chose, une trace de ça qui est restée dans mon écriture, quelque chose de l'ordre de l'incantation.
Alors, on va revenir sur la prise de parole, mais c'est aussi, vous le dites de façon très belle dans le livre, écrire, c'est aussi une façon de maintenir la conversation avec votre mère. Et elle se poursuit cette conversation.
Elle se poursuit cette conversation qui a commencé avec la question de ma mère. Qu'est-ce que tu as appris dans la langue de l'école? Et ceci aussi, c'était cette conversation a aussi une dimension politique, parce qu'à l'école, ce qu'on nous apprenait était encore tributaire de l'idéologie coloniale qui voulait qu'il y ait une hiérarchie entre les langues et que la langue française est la langue adaptée à la connaissance, à la poésie, et que la langue maternelle était une langue presque à bannir parce que elle était pauvre au regard de la richesse de la langue française. Elle était pauvre, elle n'était pas apte à exprimer la poésie, à exprimer la subtilité, à exprimer la connaissance. Or, moi, ce que j'apprenais à l'école sous le nom de connaissance et de poésie, c'est des choses que je pouvais traduire à ma mère, ou en tout cas ma mère me sommait de les traduire. Et cette mise en demeure de traduire m'a libéré de l'emprise de cette idéologie qui voulait que il y ait une quelconque hiérarchie entre les langues, comme la découverte des poètes m'a permis de me libérer de cette autre idéologie qui voulait que le français soit une langue de la violence, la langue coloniale, etc.
Mais toutes les langues sont des langues de la violence, toutes les langues sont des langues de la poésie.
Absolument.
C'est aussi ça qu'on retient aussi de ce texte. Mais je parlais de prise de parole, et pour dire aussi donner la parole dans Cantique de la Cassia, qui est le livre précédent. Il y avait le récit de ces trois générations de femmes, récit d'émancipation, bien sûr, et il annonce d'une certaine façon une magie ordinaire, parce que en vous intéressant aux femmes de votre famille, vous leur donnez la parole aussi dans ce livre-là. Ça, c'était un moment, c'est une prise de conscience aussi de dire, il faut les entendre.
Oui. Puisque moi, je peux servir de canal pour fixer leur expérience et fixer aussi leur parole. Et puis je trouvais aussi qu'on parlait, parfois de façon trop générale. Voilà, la femme africaine ou les femmes africaines. Il y a beaucoup de clichés qui, c'est des femmes dominées, c'est des femmes soumises, c'est des femmes. Et il y a, moi j'ai vécu dans mon enfance, dans mon adolescence jusqu'à ce que je dans ma jeunesse, une expérience différente dans ma famille, les femmes de ma famille, mon arrière-grand-mère, ce sont des femmes d'une autre envergure. Oui, ce sont des combattantes. Et ma grand-tante, qui était grande prêtresse, grande initiée, vaudou, mon arrière-grand-mère, qui a été une femme qu'on a remarquée pour avoir été la première femme à répudier son mari. C'est chose qui n'était pas prévue par la tradition. Donc voilà, toutes ces femmes imaginatives, inventives, créatrice d'elle-même et affrontant l'hostilité de la vie, moi j'avais envie aussi de donner cette parole-là, de les présenter comme des êtres qui affrontent les choses et qui ne sont pas soumises aux choses. Voilà, et comme j'ai les moyens de faire imprimer cette parole et leur récit, oui, je pensais que c'était un... Je leur devais ça, quoi.
Oui,
parce qu'elles m'ont fait.
Eh oui, parce que ne pas subir, en effet, c'est cette phrase qui revient plusieurs fois dans le livre de votre mère. Va vivre ailleurs, ne reviens plus. Je préfère que tu vives loin plutôt que tu meurs dans mes bras. Enfin, là, je cite approximativement, mais elle vous donne cette force-là. Elle vous la transmet.
Absolument, oui, oui. Et cette parole, elle est très difficile à dire pour une mère qui dit « Je préfère la séparation, mais reste vivant. » Donc, il y avait tout ce que cette phrase contient de conscience tragique, de peur, mais aussi de courage, d'un courage inouï. Je veux dire, partir avec cette phrase, c'est une sorte de viatique pour une longue route.
Oui, mais longue et belle route, jusqu'ici qu'aussi est fouille. Mais alors, ce texte-là vous est arrivé comme les autres, qui s'est décidé que ce serait un roman. Je mets quand même pas mal de guillemets, mais est-ce que une fois que ça vient, comment ça se passe? Il y a une méthode particulière, il y a un endroit pour écrire, il y a des horaires. Est-ce qu'il y a un rituel?
Il faut la nuit.
Ah, quand même, la nuit.
Ouais. Quand il y a la nuit, tout le reste devient possible, oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais des manies d'avoir, j'écrivais à la main, donc il fallait un type de stylo, faut que la pointe soit la plus fine possible, ce type de papier, etc. Mais bon, c'est bon, ça va mieux. j'ai plus de manies, mais il faut la nuit. Ouais.
La nuit profonde, quand les autres dorment dans la maison.
Oui. Je commence quand c'est calme, tout le monde dort, que la ville dort aussi.
Et quand vous commencez l'écriture d'une magie ordinaire, est-ce que vous en définissez ou connaissez la structure? Est-ce que vous savez où le livre va vous mener?
Non. Alors surtout celui-là, je croyais que j'étais en possession de tous les ingrédients. Et puisque c'était... très autobiographique.
Vous connaissez l'histoire, a priori.
Je croyais connaître l'histoire. Quand j'ai commencé, il y a plein de choses qui sont arrivées que je n'avais pas imaginées. Et ce que, disons, la lame de fond est arrivé aussi comme une révélation. Je n'avais pas prévu aller dans la direction où ce livre m'a mené. C'est clair.
Parce qu'il y a le, on va dire le présent du récit qui est un moment donc ce coup de fil de votre frère. Vous êtes à Avignon, on est pendant le festival. Il y a tous ces gens qui tractent, qui vous parlent. Ce présent là, il est écrit loin du temps présent réel.
Oui, ce présent-là, ouais. Oui, il est écrit loin du temps présent réel. Oui, oui, ce présent-là date d'il y a, je ne sais plus de 10 ans, oui. Oui, oui.
Et aucune prise de notes à l'époque, c'est un travail sur votre mémoire.
Complètement, oui. Et je préfère faire confiance à ce que mon corps a gardé. C'est une histoire de sensations. J'écris avec des idées, j'écris avec des sensations, des réminiscences, ça peut être fugace, mais je préfère le fugace, saisir la trace infime et voir ce que je peux construire avec plutôt que documenter, de lester la chose, l'écriture de documentation, de notes, d'une mémoire écrite. Tout est mémoire sensible.
Alors là encore, question un peu pratique, concrète, mais de la même façon qu'aussi effouée que un livre arrive, un texte arrive, est-ce qu'il y a un moment où quelque chose vous dit que c'est fini, il ne faut plus toucher à ce texte-là?
Ah, mon éditeur.
Là, c'est une voix qui arrive autrement.
Là, c'est la voix de mon éditeur qui arrive là au téléphone et qui dit maintenant que si, c'est bon. Non, j'exagère un peu. Que c'est fini, oui, ça c'est moi qui décide. Mais ne plus y toucher, c'est là où le travail de l'éditeur a toute son importance. Ouais.
Bon, pour nous, ça va être fini cet entretien dans quelques minutes, mais auparavant, on va découvrir votre choix musical, Kossi Efoué. On se quittera donc en musique, entre nous deux en tout cas. Un choix qui s'est porté sur un morceau qu'on a diffusé deux fois, il n'y a pas si longtemps. D'abord avec Emmanuel Merieux, puisque c'était le point de départ de son dernier spectacle en date. Mais aussi par rapport à un voyage que nous avons fait au fin fond du Texas. C'est un morceau de Blind Willie Johnson qui s'appelle Dark is the Night, Cold is the Ground. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce morceau, Kossi Efoué?
C'est le blues le plus dépouillé que je connaisse et ce que j'aime dans le blues, c'est que c'est la chronique du quotidien souvent à la première personne, et cette première personne est très importante. Le nègre est un bien meuble, c'est ce que dit le code noir, et donc ça, on ne crédite pas ces êtres là d'âme, d'une vie intérieure. Et voilà que quelque chose sort de cet endroit où on a voulu, enfin le lieu de la plus profonde réification, c'est une voix qui vient et qui dit « aïe, je ». Et ça me fait penser à cette réflexion qu'on attribue à Victor Hugo, qui dit que l'esclave se libère soit par la force comme Hannibal ou en prouvant son âme. Et je crois que là, Blind Willie Johnson prouve son âme.
On va se quitter avec lui, avec cet enregistrement de 1927, en rappelant bien sûr que Une magie ordinaire, votre nouveau livre, vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Kossi Efoué, d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup. Thank you.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Et bonsoir Arnaud.
Chose promise, chose due. On va faire critique ce soir. Comme vous le disiez hier, vous allez nous parler du dernier album en date du rappeur belge Hamza, intitulé Sincèrement.
Fin de la vingtaine, je n'ai innocent. Ma nouvelle biche, elle a la trentaine. Je lui fais que du seul appartement. Nouveau penthouse, ça dit quoi le sang? Scam, scam, dis-nous ce que tu veux. Toi, par le temps, la Rolls Royce. Devant le Nobu, château de Versailles. Codeine, hier codeine, demain codeine. High as fuck, tu peux te prendre une balle si tu connais pas le code. High as fuck, je vois la vie en moche, noyé dans la codeine. Codeine, codeine, codeine. Je vois la vie en moche, noyé dans la codeine. Codeine, 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 codeine. J'vois la vie en moche, noyé dans la codeine. C'est bien d'avoir des connexions, mais c'est mieux d'être le plug. Bien sûr, si j'te parle, c'est juste pour baiser, bitch, what's up. J'suis tombé dans la ligne, j'ai ni d'avoir mes 19. Ça tournait dans le nord avec la sacoche pleine de puff. Baby, j'viens du square, mais j'ai des frérots sur la place. J'ai des frérots à la tête, mort ceux qui veulent ma place. 2022, en mode codeine 19.
La codéine, cette molécule opiacée détournée comme drogue, c'est une des obsessions de Hamza depuis ses débuts dans le rap il y a une bonne dizaine d'années. C'est une des singularités qu'on traque quand on est un peu soi-même obsédé par lui, comme moi, dans ce nouvel album qui s'appelle Sincèrement, mais qui en manque singulièrement de sincérité. Il y a un hiatus étrange chez Hamza qu'on reconnaît entre mille et qui a quelque chose de profondément désirable, mais qui paraît recyclé un peu vainement dans ses textes. Les motifs éculés du gangsta rap et faire feu sans grande inventivité de tous les genres instrumentaux, de la drill à la variété latino. On piste la singularité avec peine dans ce nouvel opus. Il faut écarter mille clichés balancés sans syntaxe, comme des espèces de réflexes meublant la langue. Les calibres, les clubs, les grosses voitures allemandes, les filles faciles dans les clubs et les grosses voitures allemandes, la drogue qu'on vend, la drogue qu'on consomme, la prison, les balles à éviter, bref, toute la bimbloterie du genre, dite à l'endroit et à l'envers en français et en anglais, et qui peine à accrocher à l'oreille. On ne sent pas beaucoup de second degré dans la référence, il y a un petit côté ridicule dans la posture rétrograde du bad boy qu'on pressent pas bien penser, comme déconnecté d'une quelconque réalité. Étonnamment, la réalité, c'est un mot qui revient tout le temps dans la logorée de Hamza. Il y a même un morceau dans l'album qui s'appelle « Ma réalité ». Or, c'est un titre qui ne fait que débiter du fantasme tout fait. Sincèrement, monsieur Hamza, il s'agirait de réfléchir un peu à qui vous êtes et surtout d'où vous parlez. Ceci étant dit, quelque chose au milieu des clichés parfois creuse un peu. C'est la répétition de motifs plus singuliers, un vocabulaire propre qui canalise tout ce champ lexical dans une sorte de poétique obsessionnelle. Surtout disposée dans une voix à la texture hyper particulière, elle aiguë et traînante, qui prononce à peine les consonnes et surtout, dans ce nouveau disque, qui chante de plus en plus. En fait, Hamza trouve sa singularité dans une hybridation de plus en plus assumée entre ce fameux rap de gangster hyper couillu et un R&B qui regarde vers les années 2000, Craig David, Nelly, Matt Houston, hein, version francophone, vous vous rappelez de Matt Houston, Arnaud. Un R&B traditionnellement plus féminin qui regarde vers une sorte de romantisme populaire, la chanson de Lover. Deux tendances qui se fichent ensemble dans un signe concentrant un lyrisme particulier, le métal. Je cite, celui qui a la place du cœur et qui peut figurer autant une arme que son sexe. En fait, c'est dans une érotique singulière que Hamza fait mouche, une espèce d'ambiguïté qui perce les coques des genres tout faits, lieu plus complexe et plus fluide que les représentations à la surface, où trouver peut-être un peu la sincérité.
On sent que vous avez bien cherché hein, la sincérité de Hamza et les grosses voitures allemandes. Sincèrement, c'est donc le titre de cet album. Il a paru sur le label Just Walk Up. Merci Lucille Comeau. Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir dans l'affaire en cours, vous nous proposez un témoignage, celui du fondateur d'un bar mythique de Mexico.
Oui, Arnaud, ce soir, on va faire un petit pas de côté et entendre l'histoire assez extraordinaire de El Nueve, ce bar musical mexicain de légende. Fondé en 1977, ce lieu devient l'épicentre des nuits de Mexico. Cette boîte de nuit accueille alors la communauté LGBT et devient un lieu de prévention et d'information contre l'épidémie du sida. El Nueve, centre culturel underground, se transforme en scène de la contre-culture artistique et suscite autant d'enthousiasme que de protestation. Je suis allée demander à Henri Donadieu, un des cofondateurs de ce lieu mythique, de nous en raconter l'histoire. Henri Donadieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur.
Bonsoir à vous et à vos auditeurs.
Vous êtes le cofondateur de ce bar mythique à Mexico. Alors pourquoi vous avez voulu créer cet endroit en 1977 et qu'avait-il que les autres bars n'avaient pas ?
Je l'ai créé le 23 janvier 1977. Quand j'ai décidé de quitter la Nouvelle-Calédonie, j'avais décidé de m'installer au Mexique, où j'avais déjà fait des amis, et notamment un ami qui allait être mon associé, qui avait eu un restaurant, qui avait été un restaurant de mode dans l'endroit chaud de Mexico, pas chaud, mais dans l'endroit in de Mexico, un peu ce qu'à l'époque était le quartier latin à Paris, qui s'appelle la Zona Rosa. Au début de l'année 1977, c'est-à-dire aux environs du 2-3 janvier, des amis mexicains lui ont dit « Mais pourquoi faire un restaurant ? Pourquoi pas faire un endroit gay ?» Moi, la vérité, ça me paraissait une idée extraordinaire et j'étais prêt à prendre l'aventure. Mais mon ami qui s'appelait Manolo Fernandez, ça lui paraissait pas parce que lui, il faisait partie un peu du jet-set mexicain, un endroit gay dans cette période de la vie mexicaine. Début 77 n'était pas très bien vu de la société en général. Finalement, j'ai fini par le convaincre et on ouvre le El Nueve, le 9 en français, le 23 janvier 1977.
Alors c'est un lieu de fête, mais c'est aussi un lieu de culture. Comment les artistes...
Non, ça c'est venu après. Je vais vous dire, le 9 a eu deux étapes. La première étape, ça a été de janvier 1977 à janvier 1979. Durant cette première étape, c'était un peu le club des juniors de closette. C'est-à-dire des clients, c'était des fils de très bonnes familles mexicaines, plusieurs d'entre eux souvent mariés avec des enfants, mais qui étaient homosexuels et qui n'osaient pas sortir du closette. Je me retrouve tout seul à partir de 1979. C'est là où je décide de changer complètement la physionomie du neuf, tout en restant un endroit d'essence homosexuelle, d'essence gay. Je décide de l'ouvrir à tout le monde, à condition que tout le monde respecte à tout le monde. Je suis docteur en sciences politiques et j'ai fait ma thèse sur l'implantation de la Maison de la Culture de la région Rhône-Alpes à Grenoble. Et la conclusion de ma thèse était « Pour que les gens arrivent à la culture, il faut leur donner un peu de diversion ». Et je décide de prendre au revers cette conclusion. Pour que la diversion dure, il faut donner un peu de culture. Et c'est comme ça que ça a commencé, cet endroit qui tout de suite a été super, super à la mode, où il y avait une diversion merveilleuse. On avait la meilleure musique avant-garde de tout le Mexique. Ce que vous écoutiez au Neuf, vous l'écoutez dans tout Mexico un an après. On était vraiment des pionniers au niveau musical. Et aussi décidé de mettre des événements culturels. Alors j'ai commencé avec des expositions de peinture, j'ai fait un ciné-club, j'ai créé une compagnie de théâtre qui a eu un énorme succès, qui s'appelait la Quiche Company. J'ai créé un prix qui s'appelait le 9 d'or. C'était un prix pour reconnaître une trajectoire à quelqu'un qui a d'important. Et tout ça a fait que le 9, petit à petit, est devenu un endroit d'une énorme distraction où il y avait la fête tous les soirs, mais il y avait aussi des événements culturels qui étaient très appréciés des clients du 9.
Alors, vous parliez de théâtre. Dans quelques jours, une metteuse en scène, hein, Monica Ginterstoffer, va porter au plateau l'histoire de ce bar. Qu'est-ce que vous ressentez face, vous, à cette histoire qui va devenir théâtre?
Ben, écoutez, moi, quand j'ai ouvert le 9, j'ai eu aussi une carrière de producteur de théâtre commercial. Mais je me suis très vite fatigué du théâtre commercial et j'ai décidé de fonder dans le 9 ma propre compagnie de théâtre qui s'appelait la Quiche Company. Je dois vous expliquer qu'à cette époque, moi, j'étais très près d'Andy Warhol. J'allais très souvent à New York où j'avais un petit appartement sur Columbus Avenue. Et grâce au groupe d'Andy Warhol, j'ai connu un homme extraordinaire qui avait une compagnie de théâtre off-Broadway de travestis qui s'appelait The Ridiculous Company. Cet homme s'appelait Charles Lutlam. Et quand je décide de créer ma compagnie de théâtre, la Quiche Company, parce que j'ai toujours eu une affection pour l'art quiche et pour le quiche en général, je me suis inspiré directement de cette compagnie de théâtre de New York. On faisait une représentation chaque mercredi. Les représentations duraient de 10 à 15 minutes. J'écrivais moi-même le texte, je le dirigeais. Et c'est comme ça que j'ai créé cette compagnie de théâtre travesti qui a été reconnue il y a 3 ou 4 ans pour l'Institut mexicain d'anthropologie, la première compagnie de théâtre gay cabaret au Mexique.
Alors on le sent bien quand vous parlez, ce lieu il a mille histoires. Merci de nous en avoir raconté quelques-unes. Je renvoie nos auditrices et auditeurs à la pièce de théâtre qui aura donc lieu au Théâtre de la Commune, pièce d'actualité numéro 19 qui s'appelle El Nueve, comme le bar que vous avez fondé. Ce sera du 15 au 26 mars. Merci beaucoup Henri Donadieu.
Et merci à vous Marie Sorbier. Chaque vendredi cette saison, nous prenons des nouvelles des résidentes et résidents de la Villa Albertine aux États-Unis, programme piloté par Gaëtan Bruel et Emma Butin qui propose donc des résidences sur mesure à des artistes, chercheurs, chercheuses, mais aussi journalistes. Nous en parlons ce soir avec justement la journaliste, pas seulement, et autrice Charlotte Fauve qui est en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir ou bonjour.
Bonjour pour vous. Vous allez nous dire
Miami.
Oui, vous allez nous dire où vous êtes dans un instant. Oui, Miami. Alors, il faut tout d'abord préciser que cette résidence, elle se fait en binôme avec Marion Chartier, que vous avez rencontrée en école d'ingénieur spécialisée sur le végétal. Marion est devenue botaniste. Vous êtes devenue autrice et journaliste. Votre résidence se fait en partenariat avec Cole, coalition pour l'art et le développement durable. Alors, comme souvent. Dans ces résidences de recherche, on le voit semaine après semaine, il y a un projet de départ et puis il y a la réalité du terrain qui modifie le projet. Quel était, Charlotte Faux, votre projet de départ?
Alors effectivement, nous étions partis avec un projet extrêmement bien ficelé, une volonté de raconter donc la ville de Miami à travers ses jardins. Il se trouve que Miami est une ville relativement jeune, on va dire, puisqu'elle s'est créée en 1896 avec l'arrivée du chemin de fer, et qu'ensuite, on va dire, l'étalement urbain a entraîné une disparition de la nature originale. Et donc, on voulait raconter la ville à travers ce patchwork de nature très jeune, très artificielle. Et donc, nous sommes arrivés à Miami, et je me souviens que j'ai vu un iguane traverser une pelouse, et en fait, là, ça a changé la résidence, tout simplement. Parce qu'à travers cette iguane, donc moi je suis journaliste, donc j'ai été complètement fascinée par cet animal et je me suis mis à enquêter, à essayer de comprendre quel était ce reptile, pourquoi il était là. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une cinquantaine de reptiles autour du jardin et qu'en fait la plupart, donc une quarantaine d'entre eux, n'étaient pas du tout des reptiles floridiens. Et que tout était comme ça à Miami. Et j'ai commencé à décrypter, et là je me suis rendu compte qu'en fait Miami était devenu une sorte de miroir total de la mondialisation des échanges. Et en fait, les espèces invasives donc de Miami, ces reptiles, ces insectes, se sont mis à envahir mon écriture elle-même. Donc c'était totalement imprévu, effectivement.
C'est une globalisation de la faune et de la flore hein, qui ne va pas s'en poser de problème au-delà des iguanes qui traversent les jardins. Le plus gros problème semble être le python.
Oui, effectivement, parce qu'alors il faut comprendre que donc Miami se trouve au contact d'un écosystème unique en son genre, donc qui est les Everglades. C'est une sorte d'immense marée, une rivière d'herbe. Et en fait, donc Miami, on va dire la situation, la localisation de Miami elle-même est problématique parce que Miami est la confluence entre deux zones climatiques, donc tropicales et tempérées. Ce qui fait que lorsque vous amenez n'importe quel animal, n'importe quel insecte, n'importe quelle plante, potentiellement, il va se trouver bien. Donc il n'y a pas que des touristes et des êtres humains en fait, qui veulent venir à Miami. Un insecte ou un animal, potentiellement, il va vouloir s'installer. Et en fait, le commerce des animaux, et notamment des animaux de compagnie, a créé d'énormes problèmes, parce que le python, au départ, était un animal assez populaire dans les années 90 aussi, parce que Miami a été une ville, on va dire, très fun, très excentrique, et qu'à l'époque... Ben, c'était, on va dire que c'était classe, c'était chic d'avoir un python à son bras. Et le problème, c'est que les pythons, ça devient énorme et que les gens ont commencé à relâcher des pythons dans les environs et que les pythons sont partis dans les Everglades. Le problème, c'est que les pythons sont devenus énormes et qu'on ne sait même pas à l'heure actuelle combien il y en a et qu'ils ont à peu près, selon les derniers chiffres donc du FWC, donc qui est l'organisme de conservation en Floride, ils ont à peu près, on va dire, tué 90% de la petite faune là-bas. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est dévastateur pour un écosystème de ce genre-là.
Et en même temps, si le python détruit 90% de la faune, je crois qu'on répertorie très régulièrement la découverte d'une nouvelle plante, d'un nouvel animal dans cette zone.
Oui, effectivement, en fait, j'ai parlé à beaucoup de scientifiques très différents, des entomologistes, des spécialistes des reptiles, donc des herpétologues. Et c'est vrai qu'en fait, on estime qu'il y a à peu près un nouvel arrivant, un nouveau venu en Floride tous les mois, qui peut poser ou pas des problèmes d'ailleurs, parce qu'en fait, une petite mouche, un petit papillon peut s'installer sans créer de désastre. Mais je pense que, par exemple, j'ai été fascinée aussi de découvrir qu'il y avait, par exemple, une hotline pour expliquer... Enfin, si jamais vous trouvez un escargot africain géant dans votre jardin, il y a une hotline à Miami pour pouvoir dire « je l'ai vu », et dans ces cas-là, les gens du FWC arrive et tue l'animal parce que c'est un escargot qui est très beau mais qui pourrait tuer tous les petits escargots, on va dire, des Everglades s'il y parvenait.
Alors avec ce changement de recherche avec Marion Chartier, quelle forme pourra prendre le travail que vous effectuez aujourd'hui de recherche ?
Alors moi, je suis journaliste et autrice, donc j'écris. Marion, c'est vrai que c'est au-delà d'être ma meilleure amie, c'est une scientifique accomplie. En fait, vous connaissez ça, lorsqu'on est journaliste, on sait très bien parler aux êtres humains, mais c'est un peu plus compliqué lorsqu'on doit s'adresser, on va dire, à une plante ou un lézard. Marion voit des choses que je ne vois pas dans la nature. Donc elle m'aide énormément à ouvrir les yeux différemment, même si j'ai une formation d'ingénieur et de très bonnes bases en biologie et en écologie. Donc on va dire que c'est un travail de binôme, mais qu'à terme, j'espère pouvoir livrer un récit sur cette nature et ce phénomène qui pour moi est complètement fascinant.
Bon, ben, on va guetter le résultat en effet de cette résidence de recherche. Merci beaucoup Charlotte Fauve pour ces nouvelles étranges hein, venues de Miami. Nous, vendredi prochain, nous prendrons des nouvelles d'une ou d'un autre résident de la Villa Albertine. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.